Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peut contenir des infos. Encore une fois, on est très heureux, mon collègue et moi, François Côté et moi-même, Simon Forgue, de vous retrouver. Et j'espère que c'est un plaisir partagé de votre côté.
Bien là, on l'espère.
Sinon...
Sinon, c'est plate, hein?
On appelle ça du masochisme.
Tu vois, c'est ça, exactement.
Tu sais, tu te branches sur une émission de radio à chaque semaine.
Mais t'es aimes pas.
Mais t'aimes pas ça?
Non.
Ben, deux choses l'une. Ou c'est un passage obligé, ça se peut. Parce que, tu sais, des fois, tu travailles dans un commerce.
Ah oui, oui, c'est ça.
Et le patron te contraint par la torture à écouter une radio en particulier et une émission. Tu sais, ça peut arriver.
Ben oui.
Ou ben donc, vous voulez vous faire violence. Pis,
c'est ça.
Je sais pas, vous...
violence?
Ben oui, tu sais, des fois, tu t'imposes des affaires.
C'est rendu loin.
Quand tu t'imposes des affaires, tu dis, je vais finir par aimer ça. Je vais finir par aimer ça.
Il y a au moins une semaine, à un moment donné, ça va allumer.
Alors, désolé pour les gens qui nous subissent.
Ben, c'est ça.
Oui.
Et les autres.
Très heureux pour ceux qui nous retrouvent avec plaisir.
Aujourd'hui, à l'émission... On va se parler, mon cher ami, avec une experte en la matière.
Oui, oui, absolument.
Une vraie experte. On va se parler de poules en ville.
Pas un corps de poulet cuisse, là, de chez votre restaurant du coin de la rue.
Non. On parle de poules vivantes, là.
Des pondeuses.
Oui, oui, oui. Également, on va... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parié... On avait parié, oui.
Je parie que vous l'avez écouté. Si vous êtes des réguliers...
Je ne parie jamais en passant. Marianne Despelteau,
oui.
Journaliste, on lui avait parlé il y a de cela quelques mois.
Début février.
Oui, c'est ça. Parce qu'elle avait écrit quelque chose sur la santé mentale des journalistes.
Oui, 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 oui.
Ben, on va couvrir la deuxième partie.
OK, parce que la dernière fois, je pense qu'on avait parlé des réseaux sociaux, la pression qui s'exerce sur les journalistes.
Mais là, les images. Qu'est-ce que tu fais avec les images?
T'as ça quotidiennement.
Puis ça reste gravé dans ta mémoire.
Nous autres, ce qu'on voit à la télévision et ce que voient les journalistes quand ils reçoivent les images en vrac, là...
C'est pas tout à fait ce qui est...
C'est pas la même game et on va discuter de ça tantôt.
Oui, ça va être super intéressant. Ça, c'est après la demi.
Parfait.
T'as-tu eu chaud cet hiver?
Ben, j'ai pas eu particulièrement froid, en tout cas.
Ah, c'est bien ça. Parce que l'hiver 2023-2024 est l'hiver le plus doux jamais enregistré du Canada depuis qu'ils gardent les données.
Je suis pas tellement étonné.
Non, effectivement, parce que les températures ont été supérieures à la normale d'un océan à l'autre au cours de l'hiver météorologique du 1er décembre à la fin février. Je sais qu'ici, à Ottawa, on s'en est déjà parlé, je pense qu'on a eu une fois un moins 20.
Ça a été un hiver particulièrement clément.
À part
honnêtement,
ça, on n'a pas eu grand-chose.
Et étonnamment, particulièrement clément au chapitre des températures et pas particulièrement enneigé en plus de ça.
On n'a pas eu beaucoup. Même en Atlantique, qui habituellement ont des pieds et des pieds de neige,
ouais.
Ça a tardé avant d'arriver.
Oui, parce que généralement, il y a un ou l'autre. T'sais, soit tu tapes des froids extrêmes, des froids polaires,
c'est
et
ça.
Dans ce temps-là, ben, les précipitations ne sont pas nécessairement tout le temps au rendez-vous.
Ou bedon, t'es envahi.
Ou bedon, oui, c'est ça, le temps est plus clément, donc plus propice aux précipitations.
Exactement.
De la neige. Et puis là, ça tombe, c'est à plus finir.
Ben oui, c'est ça.
Mais
le temps doux le plus anormal a surtout touché le centre du pays. On a noté des températures supérieures de 5 degrés Celsius. Hey, c'est énorme, ça, là.
Mm-hmm.
Et ça, à la moyenne, bien entendu, sur la majeure partie du Manitoba, le nord de l'Ontario et l'ouest du Québec. Les températures ont également été bien supérieures à la normale dans la majeure partie du reste du Canada, à l'exception de certaines parties des provinces et territoires de l'ouest, ainsi que la côte atlantique, où les températures n'ont été que légèrement supérieures à la normale. Et pourquoi tout ça? Le monsieur El Niño.
Ah oui, c'est vrai.
Ben oui, on était accompagné d'El Niño au cours de l'hiver.
C'est assez célèbre qu'il y a même une chanson de Plume la Traverse qui parle de lui, de El Niño.
Ben oui, effectivement,
c'est donc là vraiment de la faute à El Niño.
c'est de sa faute. Oui, 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 c'est ça. Mais ça, El Niño, c'est la phase chaude d'un phénomène climatique connu sous le nom d'oscillation australe El Niño. Mais il y a El Nino aussi, là.
Oui, il y a sa sœur.
Oui, oui, c'est ça. Qui, elle, c'est un petit peu plus froid. Donc, ça affecte, bien entendu, le temps.
Alors, ils ont chacun, si on veut, un endroit assez spécifique du globe où chacun impose sa loi, entre guillemets,
et ça a des répercussions. Ben oui, ça a des répercussions sur les températures, le temps et tout ça. D'ailleurs, au cours des prochains mois, El Niño va arriver.
OK.
Et c'est elle qui va prendre le dessus. Alors, ils s'attendent à ce que la côte atlantique, entre autres, va connaître probablement un été pas mal plus pluvieux que normal à cause de ça, parce qu'il va y avoir, bien entendu, plus de tempêtes.
OK. Donc, en clair, il y a très certainement de quoi avoir avec les réchauffements climatiques auxquels on assiste depuis plusieurs décennies.
Oui.
Mais il y a beaucoup à voir aussi.
El Niño avec, qui,
c'est ça. Alors, il ne faut pas nécessairement tout attribuer. Quoique, je présume que les réchauffements sont en partie responsables de ça.
Je veux dire, le réchauffement climatique, c'est les extrêmes.
Hein, c'est ça. Et ça doit aussi influer, je pense, sur El Niño et El Niño.
Ah, ben
qui
oui,
doivent
absolument.
Très certainement être amplifiés dans une certaine mesure par les dérèglements climatiques. Est-ce que, et je vais dans un tout autre ordre d'idée, est-ce que tu serais d'accord, toi, c'est une grande question, sois pas obligé de répondre nécessairement parce que c'est quand même assez controversé, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on affiche sur un babillard ou encore dans les vitrines de magasins les portraits de ceux qui font du vol à l'étalage? Une bonne question. Hein?
Ça se fait dans certains endroits, je pense.
Hein? Oui. Avec la hausse du coût des denrées alimentaires dans les supermarchés, mais de façon générale, les biens de consommation, même dans les commerces au détail qui vendent, par exemple, je sais pas moi, des vêtements ou d'autres affaires comme celle-là, les vols à l'étalage sont en hausse à cause de l'inflation et tout ça. Et ça, c'est vrai un peu partout à travers le monde. Ben, en France, il y a récemment un député qui a déposé une proposition de loi qui permettrait aux commerçants d'afficher les images captés par les caméras de surveillance et sur lesquels on aperçoit les présumés malfaiteurs en train de commettre leur délit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, d'une part, il y a plusieurs pays qui ont déjà adopté cette idée-là et ça fonctionne apparemment très bien. Il y a même un nom pour ça. Vous chercherez, ça s'appelle « Name and Shame ».
Ah oui, oui, OK.
On traduirait en français littéralement par « nommer et couvrir de honte ».
Ben oui.
Aux États-Unis, par exemple, au Japon, on pratique ça. Il y a de l'information en ligne. Il y a une page Wikipédia où on explique qu'il s'agit littéralement de déclarer publiquement qu'une personne, un groupe, encore une entreprise, agit de manière fautive. Dans ce cas-ci, on s'entend, c'est un individu.
Oui.
On l'a vu sur la caméra en train de chaparder, en train de voler dans les étalages. On sort l'image, on met ça.
On affiche ça
sur un babillard.
Pour que tout le monde la voit, oui.
Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que, et que je te posais la question tantôt, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse ça, c'est qu'au Canada, cette pratique-là pourrait constituer une violation de la vie privée et une atteinte à la réputation, et on n'a pas le droit de faire ça.
Ah, tiens.
Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada s'était même penché sur un dossier en 2015.
OK.
Il y avait une madame qui était entrée dans un magasin et avait vu un babillard où... Bagadon. Des images de monde qui est en train de se faire prendre la main dans le sac, entre guillemets, des images tirées de photos de caméras vidéo où on voit des gens en train de voler. Elle avait porté plainte. Et le commissariat de la protection de la vie privée avait mené une enquête et le magasin s'était fait expliquer que, d'une part, les photos, c'est des renseignements personnels, entre autres choses. Et d'autre part, la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ne permet pas d'afficher publiquement de telles photos sans obtenir le consentement de l'autorité comme le faisait le magasin. Puis tu sais, comprends-tu que tu t'en vas voir quelqu'un et tu le recroises à un moment donné, ça te dérange-tu que je mette ta photo en train de voler dans ma vitrine de magasin?
Non, c'est correct.
Tu sais, il va dire oui, tu sais, encore. Alors, le magasin avait finalement dû accepter, se plier et retirer les photos du tableau d'affichage, mettre fin à cette pratique-là, au risque de, évidemment, subir des poursuites. Et l'idée du projet de loi là, qui a été déposé en France et dont je vous parle et qui nous amène à votre souper, par exemple, de ce soir ou demain soir où vous allez chasser 200 familles, je sais pas trop, c'est on aimerait permettre aux commerçants de se faire justice eux-mêmes à toute fin utile. Parce qu'actuellement, le code pénal, ici au Canada, mais ailleurs dans beaucoup de pays, ne permet pas ce genre d'affaires-là. Même qu'en affichant le visage, justement, de quelqu'un qui est en train de faire du vol à l'étalage, écoutez ça, là, c'est quand même assez ironique, c'est que tu te fais voler dans ton magasin, mais tu n'as pas le droit de, comment je dirais ça, d'étaler ce fait-là devant tout le monde. Si tu le fais, tu es passible d'un an de prison et une amende, un an de prison ainsi qu'une amende de 45 000 euros, c'est à peu près 60 000 $ canadiens.
Okay.
Tu t'es fait voler quelque chose à 50$, puis tu essaies de faire justice. Puis le problème, c'est que même s'il y a des plaintes qui sont déposées au commissariat de police, bien, ça aboutit rarement. 25-30$, les agents de police, ils ont bien d'autres affaires à
c'est
enquêter.
C'est sûr
là.
Et certain. C'est ça. Mais ça n'a pas aussi à voir avec le fait qu'ils n'ont pas été reconnus coupables dans le sens de la justice.
Il y a un peu de présomption d'innocence. T'sais. On peut te voir sur une caméra en train de mettre quelque chose dans un sac, mais qu'au final, tu l'as payé.
Tu l'as payé ou tu l'as remis sur la tablette.
Exactement,
30 un peu secondes plus tard.
Exactement. Les commerçants qui font ça, là, souvent, ils sont aux prises avec une espèce de cas de conscience, entre guillemets, parce qu'eux-mêmes, ils courent le risque de se faire rattraper par la justice s'ils font ça, c'est faire justice soi-même. D'autre part, souvent, ce qu'on assiste aussi, c'est qu'il y a des clients, comme on l'a vu au Canada dans la plainte qui a été déposée, c'est qu'il y a des gens qui disent « Hey, je fais là, m'aller déposer une plainte. » Ou même certains qui disent, si tu continues de faire des affaires de même, là, j'arrête d'acheter chez vous.
Ben oui.
Là, le commerçant, il dit, oh, OK, je suis un peu mal pris. Je veux-tu perdre de la clientèle parce que je veux faire justice? Et il y en a même qui se font menacer par... Oui, ça arrive des fois qu'ils se font menacer. Alors, ce projet de loi qui a été déposé par un député qui s'appelle Romain Daubier vise à légaliser la pratique du name and shame par les commerçants pour lutter plus efficacement contre les vols à l'étalage. Projet de loi qui... dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est juste rajouter une petite parenthèse, entre guillemets, là, dire, quand vous rentrez dans un magasin, autrement dit, vous savez que des caméras de surveillance, ça va être affiché à quelque part, on présume que si vous commettez un larcin, vous allez avoir été averti et vous allez...
Vous êtes d'accord avec
le fait que ça pourrait arriver qu'éventuellement, si vous volez de quoi, votre face se retrouve sur un babillard ou encore dans la vitrine. C'est un petit peu ça. Alors, posez-vous les questions à la maison chez vous. Est-ce que c'est le genre de pratique que vous aimeriez voir au Canada? La question est lancée comme ça, comme un ballon, mettons.
Oui.
Dans un moment, on parle d'élevage.
Non,
attention.
Faut
pas parler d'élevage. La garde des poules chez soi à la maison en ville.
Peut contenir des infos.
On va s'intéresser aujourd'hui à l'émission « Peut contenir des infos » à une pratique qui devient, ma foi, étonnamment de plus en plus répandue à travers le Canada et qui risque probablement d'en surprendre quelques-uns parmi vous autres.
Je pense que oui, plus qu'un. On va parler de garder des poules à la maison.
Okay.
En milieu urbain.
OK, en milieu urbain.
Milieu urbain, oui, vous avez bien entendu. Des poules en plein cœur de la ville.
Oui, il y a de plus en plus de villes qui autorisent les citadins à posséder des poules chez eux. Et on a le plaisir d'en discuter avec une dame qui est une experte, pour ainsi dire, en la matière, parce qu'elle dirige, entre autres, une organisation, une compagnie qui s'appelle Poules en ville. Et elle a même écrit un livre sur le sujet, « Des poules dans ma cour ». C'est paru en 2020 chez Éco-Société. Il s'agit de Mme Louise Arbour qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Mme Arbour.
Oui, bonjour, M. Fogg. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin.
Ça nous fait plaisir également, Mme Arbour, parce que je pense qu'on va démystifier ou jeter un peu de lumière, à tout le moins, sur un courant ou une pratique qui est de plus en plus répandue. Avoir des poules chez soi, à la maison. Pourquoi, Mme Arbour, d'abord, les gens décident d'élever des poules derrière chez eux? Et c'est quoi les avantages, au juste, de ça?
Eh bien, vous savez, ça fait très longtemps que la pratique existe, même depuis les années 30. Alors, ce n'est pas d'hier, c'est une pratique qui est même très répandue, pas juste au Canada, mais partout en Amérique du Nord et en Europe. Je vous dirais qu'on était peut-être en retard sur cette pratique qui est devenue de plus en plus populaire depuis les années 90. Et puis, bien entendu, les gens ont décidé d'avoir quelques poules chez soi parce qu'on a réalisé que des petites poules, c'est un animal de compagnie fort intéressant. qui a l'avantage en même temps de nous donner des œufs frais. Et comme la population essaie d'avoir de plus en plus un intérêt sur le bien-être, la santé, la nutrition, on veut avoir des œufs frais et puis avoir un animal de compagnie qui ne vit pas nécessairement dans la maison. Parce que on a quand même souvent des familles qui ont un enfant qui est allergique aux chats, aux chiens, alors que les poules vivent dehors. Donc, elles vivent nécessairement dans la maison. Ça facilite cet animal de compagnie. C'est un retour aux sources, c'est un besoin de bien-être, un besoin affectif. Et puis, la poule procure une forme de zoothérapie incontestable. Et d'ailleurs, il y a énormément de projets de recherche et d'études qui ont été faits sur les bienfaits des poules dans les milieux de résidence de personnes âgées, dans les centres de déficience intellectuelle un peu partout pour aider ces gens-là.
C'est qui les gens qui se tournent vers l'élevage de poules en ville? On parle-tu de jeunes, des retraités, des familles?
La question que vous me posez, là, c'est intéressant, mais en fait, il n'y a pas un profil particulier. C'est toute personne de tout âge. On a des jeunes, on a des jeunes familles, on a des retraités, on a des personnes seules. La seule prémisse qui est commune à toute personne qui veut se lancer dans le projet d'avoir des poules, c'est souvent tout simplement d'avoir une arrière-cour capable d'accueillir un poulailler d'une grandeur qui soit correcte pour le bien-être animal, là, un poulailler d'une dimension qui correspond aux règlements municipaux. Tout simplement. Donc ça, c'est la prémisse de base qui relie tous les gens et ou des gens qui ont maintenant le temps de s'adonner à cette pratique. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé depuis des années, ils n'avaient peut-être pas le loisir, le temps, mais suffisamment maintenant là, que les gens sont capables de le mettre à exécution, c'est assez simple et assez facile. Donc, ça s'adresse à tout le monde.
OK. En clair, s'il y a des gens qui pensaient que c'était un trip, permettez-moi l'expression, de gentleman farmer, là, qui était sur leur retour à la terre et tout ça, c'est pas le cas. Là. Monsieur, madame,
non,
tout le monde,
il était peut-être.
C'est ça là, que vous nous dites
non,
là.
Ce n'est pas ça.
OK.
C'est vraiment des gens de tous les milieux, ouais. de toutes les strates socio-économiques, en autant qu'on soit capable, bien sûr, de se permettre de se construire un poulailler adéquat, de nourrir nos poules.
C'est ça.
En fait, la question, je vous la posais à l'envers.
Oui.
Est-ce qu'il y a un profil qui relie les gens qui vont avoir un chat et un chien?
Ben, c'est ça. Hein,
ouais. Oui.
D'ailleurs, tantôt, François parlait d'élevage, là, mais vous m'avez dit dans un échange de courrier qu'on ne parle pas à proprement parler d'élevage. Là.
Exactement. Donc, ça, c'est un terme qui a été malmené là, au fil des ans. Des poules dans la cour, ça ne veut pas dire faire de l'élevage. L'ensemble des municipalités qui ont mis de l'avant un règlement mettent de façon très claire qu'on veut éviter d'avoir des coqs, éviter l'élevage pour des raisons de biosécurité, de salubrité et pour aussi s'assurer d'avoir des poules qui sont vaccinées jusqu'à l'âge de 16 semaines. Donc, il y a tout un ensemble de règles qui prévaut. Donc, avoir des poules dans sa cour, c'est avoir des poules, point. Pas de poussins, pas de coqs, pas de reproduction. Mais en zone rurale, il y en a qui en feront de l'élevage, là, qui auront un coq, qui pourront les faire se reproduire. Mais en général, la définition d'une poule urbaine, là, partout dans les municipalités, ce ne sont que des poules matures prêtes à pondre. Puis la poule n'a pas besoin de coq. Ça, c'est quelque chose que les gens, parfois, on va réaliser. Là. La poule n'a pas besoin de coq. Elle n'a pas besoin de coq pour pondre des œufs à okay. tous les jours. Voilà.
La majorité des gens ont eu un chien, un chat, un hamster.
Oui, oui.
Mais quel genre de relation on peut avoir avec une poule? Parce que vous avez parlé d'animaux de compagnie.
Ouais. Oui, la poule, elle est vraiment fascinante. D'abord, c'est un animal très intelligent. Plus on passe de temps à les observer, plus on remarque à quel point elles sont fascinantes. En général, les citoyens vont aller vers des poules hybrides là, qui sont faciles à acheter, à se procurer dans les magasins agricoles. Ce sont des poules très sociales, très dociles, qui s'adaptent aux humains, qui viennent vers vous. Et puis, plus on passe de temps avec, plus elles s'habituent aux humains, elles se laissent approcher. Mais c'est sûr qu'elles ont chacun leur caractère, puis il y a des espèces qui sont qui sont pas du monde avec les humains, qui veulent pas se laisser approcher. Ça arrive, ça aussi. Mais j'ai des clients, là, qui ont des espèces très colleuses, qui se laissent prendre, qui ronronnent comme des chats, qui se laissent bercer, qui se laissent flatter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sous le bras, et puis qui nous envoient des vidéos de tout ça, là. Donc, tu sais, c'est ça, là. Il y a de tout dans ce monde-là. C'est très large, là, le monde des poules. Ben, bon, donc, on peut s'attacher au même titre qu'on s'attache à un chat, un chien, et puis, ou ben non, on les garde simplement pour la production des œufs, puis on ne s'attache pas, puis on s'en départit aux 3-4 ans, puis on change notre cheptel, parce qu'ils ont une durée de vie beaucoup moindre que les chats, les chiens.
Okay. Mais Mme Arbour, comment ça se passe, là, élever des poules chez soi, derrière la maison? Il faut se griller de quel matériel, mettons, et comment ça se passe de façon générale?
Ben, de façon générale, c'est très, très simple. Du moment que ton poulailler est installé, d'ailleurs, sur le site de poulesenville.com, en anglais Urban Chicken Coops, vous allez trouver des exemples de poulaillers qui sont adéquats et non adéquats, et un exemple de poulailler que je produis, je construis là en pièces préassemblées. Ça prend des dimensions minimales, ça prend un métrage là au pied carré qui est spécifique aux besoins de nos poules pour éviter le cannibalisme, le piquage. C'est un animal qui est hiérarchique, c'est un animal qui doit vivre en groupe. Donc, tu peux pas avoir juste une poule. On recommande pas d'avoir juste deux poules non plus. On doit avoir un groupe de poules, de 3 à 5 poules, pour qu'elles établissent une hiérarchie. Donc, il y a des prémices comme ça à s'assurer dès le départ. Alors, un poulailler qui va être capable de les accueillir 12 mois par année, idéalement isolé dans la partie où elles dorment la nuit, une assez grande volière pour qu'elles puissent bien parer à leurs activités toute la journée, qui est de pouvoir explorer les sols et tout ça. Et évidemment, la plupart des gens vont dire « Oh, moi, j'ai une très grande cour, elles vont pouvoir errer dans la cour », sauf que la plupart des règlements municipaux nous interdisent de les laisser aller liberté toute la journée pour des raisons de biosécurité. Donc, ça prend pas nécessairement un énorme terrain. Et puis, je recommande pas de les laisser manger du gazon, de la pelouse toute la journée. Ouais. C'est pas très bon pour l'équilibre nutritionnel. Okay? Donc, ça prend un bon poulailler. Ça demande pas d'être là tous les jours. Elles peuvent se garder toutes seules. Ça demande d'avoir des bons accessoires, mangeoires, abreuvoirs, un grillage solide pour prévenir l'entrée des prédateurs dans le poulailler. Idéalement, la cour est clôturée. Et puis, il faut tout simplement prévoir le gardiennage qui va aller s'en occuper. Vous êtes absent parce qu'on ne déménage pas des poules. On ne déménage pas pour l'hiver, non. On les garde. C'est très facile. Alors, tout ça est bien expliqué dans mon livre, sur mon site web. Puis d'ailleurs, j'ai une formation en ligne qui est obligatoire dans la plupart des municipalités. Ici au Québec, là, beaucoup de municipalités obligent les citoyens à se former. Parce que parler de la garde des poules, là, ça se fait pas en 5 minutes. On a tendance à banaliser ça, mais c'est très vaste. La formation de base dure 4 heures.
Wow.
Oui. Alors, et on fait juste couvrir les grands sujets, là. Donc, c'est pas si banal que ça. Puis je trouve que souvent dans les entrevues, on fait juste couvrir en superficie, là, les grandes lignes, mais on n'approfondit jamais. Moi, je pourrais, là, vous donner des chroniques d'une demi-heure, trois quarts d'heure par semaine pendant un an ou deux sur le sujet.
C'est fascinant, hein?
Oui.
De ce que vous entendez puis de ce que vous voyez, là, comment c'est perçu là, chez le public? Comment est-ce qu'on accueille cette pratique-là? Puis qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent?
D'abord, les gens doivent savoir que c'est accueilli très favorablement et que dans l'ensemble des municipalités qui ont légalisé, ici au Québec, on parle de plus de 150 municipalités qui sont allées de l'avant, lesquelles j'ai contribué à les aider, à favoriser l'arrivée du règlement dans lesquels j'ai aidé les citoyens, je les ai accompagnés. Donc, on a souvent, dans ces municipalités, fait des sondages. Puis quand on sonde la population, on a une idée claire de qu'est-ce que notre population croit, pense, désire. Et où il y a des municipalités qui ont mis de l'avant sur leur site web un Q&A, question-réponse, pour démystifier les fausses croyances, les mythes. Ah, ça va sentir mauvais. Ben non, maintenant, on utilise des bons produits, des bonnes litières. C'est fini l'usage du foin dans nos poulaillers. Ça va faire du bruit. Ben non, on a des poules, on n'a pas de coq. Alors, toutes les fausses croyances, on les démystifie. Et quand on met de l'avant dans un sondage, on s'est rendu compte que plus de 80-85% de la population était en faveur. Puis souvent, ceux qui sont en faveur, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance, ne comprennent pas le concept, n'ont pas compris c'était quoi avoir des poules. Quand on explique, ils comprennent que c'est pas compliqué, là. Ça n'a pas d'incidence. Là.
Oui, et c'est... Et c'est la même chose chez les élus, là, Mme Arbour, parce que le temps file. Vous nous disiez tout à l'heure, avant de commencer l'entrevue, que le maire de Mascouche a signé la préface de votre livre.
Ah oui.
Mais c'est vraisemblablement pas tous les élus, je présume, qui sont conscientisés ou qui acceptent ça très, très facilement. Là, il doit y avoir encore du travail à faire quand même, hein?
Énormément de travail à faire. Je vous dirais qu'il y a des enjeux dans certaines municipalités où ce n'est pas nécessairement un manque de volonté de l'aller de l'avant. C'est souvent des chicanes politiques à l'interne, les oppositions qui s'opposent juste pour s'opposer. On voit ça dans certaines municipalités, même ici au Québec. Là, je les nommerai pas, mais on a des difficultés dans certaines grandes municipalités, alors que toutes les plus grandes villes au Québec ont mis de l'avant un beau règlement. Ça s'est très bien fait. Et moi, j'offre mes services de consultation pour aider les municipalités. Et j'ai été mandatée par l'Union des municipalités il y a 2-3 ans pour donner des conférences et des formations auprès des élus et des cadres des municipalités. Et je les accompagne encore dans ce processus.
Okay.
Donc, les exemples de règlements sont là. La littérature est là. Mon site web est complet. Donc, les municipalités n'ont aucune raison d'hésiter d'aller de l'avant et d'avoir toutes les données et les renseignements pour pouvoir aller de l'avant avec ce processus. Et ce serait une forme de discrimination envers certaines municipalités par rapport à d'autres. Parce que quand tu as une municipalité qui est entourée de 25 municipalités qui ont dit oui, puis tu en as une qui reste qui dit non au centre, là, ben les citoyens ouais. se sentent vraiment discriminés par rapport aux autres.
Ah, les gens, alors, on vous avait dit qu'on allait recevoir une experte, une spécialiste en la matière, ceux et celles d'entre vous qui est intéressée à avoir oui. des poules à la maison, là. Elle s'appelle Louise Arbour. Elle dirige une organisation qui s'appelle Poules en Ville. Le site web, c'est poulesenville.com, je pense, Mme Arbour.
Exactement. Poule avec un S,
oui.
en ville.com.
Et elle est...
Puis il y a un... Oui,
et
page Facebook et la page du YouTube portent le même nom.
Parfait. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des poules dans ma cour » paru en 2020 chez Éco-Société. Madame Louise Arbour, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Il y a quelques semaines de ça, de mémoire, c'était au début du mois de février, si je me trompe pas, on avait reçu en entrevue la journaliste de Franco-Presse, Marianne Despelleteau.
Oui.
Elle était venue nous expliquer comment les journalistes peuvent être la cible d'intenses pressions,
mm-hmm.
qu'on soupçonne souvent pas, nous autres, les simples citoyens, non seulement dans l'exercice de leur métier, mais également dans leur vie privée. Hein? Les médias sociaux, par exemple, où ils se trouvent à être très souvent la cible, par exemple, de menaces et d'insultes.
Dans une série d'articles, et on en avait parlé à ce moment-là, qui traite de la santé mentale des journalistes, Marianne s'est intéressée à un autre phénomène qui est bien particulier, c'est-à-dire les images d'horreur que nous, les citoyens ordinaires, on a le choix de regarder ou pas. Mais eux, les journalistes, dans leur métier, ils n'ont pas le choix de les voir.
Exactement. Et ça peut poser ou ça peut causer de sérieux problèmes de santé mentale. Et elle signe un texte qui s'intitule « Santé mentale des journalistes. Couvrir l'horreur à distance ». On vous invite à lire ça, entre autres, dans Franco-Presse et des hebdomadaires francophones à travers le pays. Et elle est avec nous autres, en bout de ligne, pour nous en parler. Marianne Despelleteau, bonjour.
Bonjour.
Marianne, dans l'article en question, cet article qui s'intitule « Santé mentale des journalistes, couvrir l'horreur à distance », on parle d'images horrifiques auxquelles les journalistes sont exposés dans la couverture de conflits à l'étranger, même quand ils ne sont pas sur le terrain à proprement parler. Et ça peut être traumatisant, mais quel type de contenu là, on peut évoquer, par exemple?
Je vais casser l'ambiance rapidement, je crois. Ce sont des photos, des vidéos parfois, juste des enregistrements qui présentent le plus souvent de la violence, mais aussi le désespoir. La tristesse n'est pas un mot assez fort, là, mais on peut parler par exemple de la photo d'une mère qui pleure la mort de ses enfants sans même voir les enfants. Là, juste voir les yeux de la mère, l'expression sur son visage, ça vient nous chercher. Dans le cas de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier en Israël, parce que c'est de là que m'est venue l'inspiration pour cet article, écoutez, si on circule assez longtemps sur les médias sociaux, on peut voir des vidéos de personnes démembrées, une femme dont le pantalon est ensanglanté, on peut imaginer ce qui lui est arrivé. je vais éviter de trop déprimer vos auditeurs, là, mais rapidement, il y a des corps brûlés, beaucoup de sang, des enfants affamés, et ça, c'est juste sur les médias sociaux. Ouais. Il y a bien entendu tout ce qui sort du conflit qui se déroule à Gaza depuis. Il y a la guerre en Ukraine. Bref, on parle de matériel audiovisuel qui démontre le pire de l'humanité. Et pour les journalistes, ben, certains d'entre eux reçoivent d'immenses quantités de photos, de vidéos envoyées par des agences de presse, par leurs collègues sur le terrain, ou même par des citoyens qui tentent d'alimenter les fils de presse occidentaux en envoyant leur propre matériel et puis, bien entendu, tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux.
C'est qui les professionnels de l'information, là? Ah, oui, les journalistes, là, mais il y en a d'autres, de façon générale, qui sont les plus susceptibles de voir, mais aussi de revoir ces images-là.
Oui, donc il y a des gens dont la tâche consiste à filtrer tout le matériel audiovisuel produit par divers utilisateurs. Là, je parle non seulement de ce qui est envoyé par les agences de presse, par les collègues sur le terrain, mais je parle aussi de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Parce que pour que les médias traditionnels, pour que les journalistes puissent s'en servir, ben il faut que quelqu'un fasse le tri, vérifie la véracité du matériel. Parce que oui, une certaine quantité de ce qu'on voit sur Facebook et Instagram est faux. C'est-à-dire pas forcément des montages truqués, mais ça peut être par exemple une photo prise il y a 10 ans qu'on essaye de faire passer pour une photo prise il y a 2 jours. Donc, il y a des journalistes ou autres professionnels de l'information, parce que parfois, ce sont des journalistes qui font cette tâche-là, mais ça peut être d'autres gens qui passent vraiment des heures et des heures et des heures à filtrer ce matériel ou qui filtrent le matériel, comme j'ai dit tantôt, issu d'agences de presse ou de leurs collègues sur le terrain. Et puis, ce sont ces gens-là, et c'est comme ça que je commence l'article, ce sont eux pour qui il faut vraiment s'inquiéter, selon les experts. Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme a publié un rapport sur la santé mentale des journalistes en 2022 et ils le disent, et là je les cite, ceux qui ont rapporté les impacts les plus importants avec des histoires de traumatisme étaient des travailleurs des médias qui passaient beaucoup de temps à revoir des images ou des détails dérangeants, notamment les journalistes vidéo, les caméramans, les podcasteurs, les monteurs et libraires vidéo et les recherchistes. Donc, il y a vraiment toute une gamme là, de gens.
Là, je vais passer pour l'avocat du diable ou certains diraient l'empêcheur de tourner en rond, mais pourquoi ces gens-là, eux autres, sont susceptibles de connaître du syndrome de stress post-traumatique, par exemple de l'anxiété, même de la dépression dans certains cas, alors que nous, le commun des mortels, les téléspectateurs, les lecteurs, on voit ça passer, me semble-t-il, quand même de façon très large dans les médias sociaux, les médias et tout ça, mais on n'est pas susceptible, ou en tout cas, on a moins de chances de connaître de pareils problèmes. Pourquoi eux plus que nous autres?
Oui, c'est vraiment la question de la répétition et du temps passé à visualiser ce matériel. On entend souvent là, les gens se plaindre que les nouvelles, c'est déprimant, la télé, c'est déprimant. Mmh. Ma grand-mère le dit tout le temps. Là. Sauf que la différence, c'est que ma grand-mère et tous ceux dont le métier ne demande pas une attention particulière et constante à l'actualité, ben, ils peuvent éteindre la télé. Ils peuvent et devraient, en écouter les spécialistes, éteindre leur téléphone cellulaire. Ce que m'expliquait Anthony Feinstein, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Toronto et vraiment le chercheur en santé mentale et journaliste, il me disait que c'est la répétition de la visualisation de contenu difficile qui fait toute la différence. Donc, c'est sûr que d'en voir autant que ma grand-mère en voit, c'est difficile. Mais quand on parle notamment de syndrome post-traumatique, il y a des critères. Il y a, surtout à l'étape du diagnostic, des paramètres. Maintenant, ce que M. Feinstein m'expliquait, et ça c'est intéressant, c'est que l'Association américaine de psychiatrie a changé les critères du syndrome post-traumatique en 2013, on est à il y a plus de 10 ans, pour ajouter le critère de la répétition de la visualisation de matériel on peut dire stressant. Donc, il y a bien entendu le critère d'être confronté, de vivre un événement qui vous menaçait ou qui menaçait ceux autour de vous, quand on parle de syndrome post-traumatique. Mm-hmm. Mais il y a aussi, depuis 2013, le fait que si dans votre cadre, comme dans le cadre de votre travail, vous êtes exposé encore et encore à du matériel traumatique, ben c'est désormais considéré comme étant potentiellement assez stressant pour causer un syndrome post-traumatique, de la dépression ou de l'anxiété.
Tu as parlé à une conseillère spécialisée en traumatisme. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté?
Oui, Marie-Lou Tardif, très gentille d'ailleurs. Écoutez, juste en prévision de mon entrevue avec elle, et là, je ne dis pas que c'est forcément lié au conflit dans le Moyen-Orient, mais elle m'a dit, écoute, Marianne, ça se peut qu'on soit interrompu pendant notre entrevue parce que je reçois parfois des appels d'urgence. Donc, c'est quelqu'un qui intervient en situation de crise, et oui, elle a beaucoup de travail en ce moment. Elle m'a raconté, parce que moi, je voulais surtout savoir comment ça se passait depuis le 7 octobre, depuis tout ce qui se passe à Gaza et l'Ukraine. Mmh. Puis elle m'a raconté que les journalistes sont fatigués. Elle rappelait aussi que chaque journaliste ne vit pas les choses de la même façon. C'est-à-dire, on peut présenter 50 images difficiles à deux journalistes. Ils ne seront pas affectés de la même manière à cause de leur histoire, de leur passé et prédispositions différentes. Donc, elle parlait d'un cumul de choses, notamment depuis la pandémie. J'en parlais dans le premier texte de cette série. Là, le métier de journaliste est devenu plus difficile. Ça fait vraiment écho au mode de vie des journalistes. Et c'est, chez plusieurs médias, c'est vraiment go, go, go. Le temps de répit est dur à trouver, voire inexistant. Et comme je le disais plus tôt, un journaliste qui n'est pas tenté à lire les nouvelles, même après son corps de travail, personnellement, là, je ne sais pas vous, j'en connais pas beaucoup.
Ouais.
Et puis, elle rapportait aussi, vous l'avez dit dans l'introduction, des impacts dans la vie personnelle, des difficultés à se détacher de ce qu'ils ont vu. Elle m'a parlé, ça c'était assez intéressant, une sorte de culpabilité. Quelqu'un qui lui a dit « je veux les aider, les gens dans les images ». Et Marie-Lou Tardif lui a répondu « ben ce n'est pas en regardant ces images à outrance que tu vas les aider ». Mais le message qu'elle voulait vraiment passer, donc oui, elle trouvait les journalistes fatigués, puis elle voyait que c'était difficile pour eux, mais elle voulait passer un message d'espoir. Elle disait que le trauma, ça se travaille, ça se guérit. Elle disait aussi qu'il faut se poser la question « est-ce que c'est nécessaire ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer toutes ces images à autant de journalistes dans notre salle de nouvelles? Bref, l'idée là de limiter les dégâts. Puis ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on veut s'entraider entre collègues, mais selon Marie-Lou Tardif, il faut un peu suivre la règle du moins possible. Donc, sans éliminer le travail important qui doit être fait, de limiter le plus possible le nombre de journalistes exposé au contenu difficile.
Ouais, mais en même temps, Marianne, j'ai l'impression un peu que c'est le chien qui court autour de sa queue, là. Est-ce qu'on peut faire abstraction de certaines images dans un métier comme celui de journaliste où il faut, autant que faire se peut, témoigner de la réalité d'un conflit ou encore d'un cataclysme? Comment on fait dans un métier comme celui-là pour dire, ben, comme, je vais essayer de pas trop regarder d'images, mais en même temps être capable de témoigner de la réalité? Tu sais, faut qu'on les regarde, là, les morts qui se sont fait trouer avec des balles. Il faut qu'on les regarde, les gens qui sont pris sous les décombres pour être capable de témoigner correctement. Comment on fait ça?
Ben, c'est un peu la règle du pas le choix. Hein. C'est un métier qui est difficile. Quand on le fait de cette façon-là, là, qu'on est sur le terrain, qu'on doit regarder ces images-là. Ce que autant Marie-Lou Tardif et Anthony Feinstein me disaient, c'est pas fait pour tout le monde. Puis il y a une responsabilité, on va en parler tout à l'heure, de la part du journaliste lui-même, mais aussi de son rédacteur en chef, de son affectateur, à connaître les journalistes. On n'envoie pas n'importe qui sur le terrain. On n'envoie pas n'importe qui visualiser des centaines d'images difficiles. Ça prend un certain type de personnalité. Ça prend une certaine résilience. Comme vous avez dit, c'est un métier où on veut rapporter les événements de la manière la plus fidèle possible. Et puis ce travail est justement très important, là, surtout quand les images viennent de non-professionnels, des gens sur place. Il faut le filtrer si on veut l'utiliser. Donc, il y a ça. Après, sur ce que présentent les médias traditionnels au public, j'ai parlé à Ivano Demers, qui est photojournaliste chez Radio-Canada. Il y a des limites, il y a des règles. Tout ne passe pas. Et il y a des choses qu'on ne peut pas montrer au public. C'est vraiment d'ailleurs le cœur du travail d'Ivano Demers, c'est de se poser la question « quelle image représente le mieux la réalité ?» On peut présenter différentes facettes de la réalité, ça ne la fausse pas pour autant. Je vais prendre le cas d'une tuerie. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Est-ce qu'on veut montrer le sang, la violence? Est-ce qu'on veut montrer la présence policière? Est-ce qu'on veut montrer l'horreur sur le visage des survivants? Donc, pour ce qui est de faire abstraction du difficile, du lourd, moi, en tout cas, après avoir parlé à ces personnes-là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Certains vont dire qu'il faut en montrer le plus possible. D'autres vont dire l'inverse ou vont privilégier l'écrit. Mais pour les journalistes, il y a, comme je disais, ils n'ont pas le choix. Quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit y aller. Après, c'est de savoir qui est capable de le prendre, puis c'est aussi de s'assurer que la personne est correcte, se sent bien après. Donc quand on dit leur apporter les événements de manière fidèle, quand on parle d'image, puis ça c'est plus pour la protection du public, ben il y a plusieurs réalités. Il y a les parents de la victime, il y a la victime, est-ce qu'on va publier le cadavre sous un drap blanc,
ouais.
ou est-ce qu'on va publier la maison de la victime. Il y en a une qui est quand même plus facile à regarder que l'autre.
Ouais.
Mais ça, c'est pour le public. Pour le journaliste, c'est sûr que le journaliste aura vu les deux. Donc c'est encore une fois de connaître ces journalistes et puis de s'assurer que le journaliste a le soutien dont il a besoin par la suite.
Bon, en espérant que les rédactions, les éditeurs en chef, les journalistes eux-mêmes sont oui. conscients de ça et qu'ils vont prendre les mesures qui s'imposent pour protéger leur santé mentale devant de tels phénomènes. Elle s'appelle Marianne Despelletot, elle est journaliste pour Franco Presse. Elle signe un article qu'on vous invite à consulter, soit à travers vos hebdos, soit dans le site francopresse.ca. Ça s'appelle « Santé mentale des journalistes, couvrir l'horreur à distance ». Marianne Despelletot, merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci à vous.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
C'est le moment tant attendu et le désormais célèbre moment de l'émission peut contenir des infos.
C'est le 12 minutes, ma foi, le plus recherché.
Es-tu prêt pour le quiz aujourd'hui?
Oui.
Les gens à la maison, j'espère que vous êtes prêts aussi. C'est un quiz sur roulement de tambour, les rues et les routes mythiques. Et on va se transporter un peu partout à travers le monde. Alors, il n'y en aura pas qu'au Canada.
OK.
C'est intéressant. Première question.
Oui.
Celle-là, je pense qu'elle est relativement facile. Enfin, j'espère. Quelle célèbre artère parisienne,
okay.
dont on s'en va en France, relie la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe?
OK.
Est-ce A, l'avenue des Champs-Élysées? Est-ce B, le boulevard des Invalides? Ou C, l'avenue Victor Hugo, selon toi?
Ah.
Et oui, absolument, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Mm-hmm. On appelle aussi dans sa forme courte les Champs-Élysées, tout simplement. Oui. C'est long d'à peu près 2 km. Vous m'en voudrez pas si je manque une couple de mètres ici et là. Et on la considère comme l'une des plus belles okay. artères du monde. Je dirais même peut-être la plus belle avenue de la planète, l'avenue des Champs-Élysées. Ça relie justement, comme je le disais, la place de la Concorde à l'un des plus célèbres monuments au monde, l'Arc de Triomphe.
Oui.
Question numéro 2. Dans la version classique... Pas toutes les versions, mais dans la version classique anglaise du Monopoly. Tu as parlé de jeux oui. de société à un moment donné.
Uh-huh.
Laquelle de ces avenues vaut le plus cher? Est-ce A? Puis je vais donner même les couleurs, fait que ça devrait t'aider.
Ouais,
je suis fin, puis pas qu'à peu près.
Mais c'est bleu, en tout cas, bleu foncé.
Ouais, mais là, attends un peu là.
Okay.
Est-ce A, l'avenue Tennessee, donc de couleur orange?
Orange, non.
Est-ce B, l'avenue Kentucky, qui est rouge?
Rouge, non.
Ou c'est l'avenue Pennsylvania qui est vert?
C'est Pennsylvania parce que juste avant d'arriver au Passego, là, avant les bleus.
Tu as dû jouer au Monopoly, pas qu'un peu, hein?
Ben, pas pire, oui.
Pas pire. Ben, la réponse, c'est effectivement c'est l'avenue Pennsylvania ou Pennsylvanie, ouais. comme on dit en français, là. Ça coûte 320$ acheter l'avenue Pennsylvania. L'avenue Kentucky vaut 220 et l'avenue Tennessee vaut 180$.
Parce que si je me souviens bien, là, quand tu commences, là, tu pars de go, là.
Les petits bruns, là.
Oui, t'as les petits bruns.
Ils sont pas chers.
Les mauves, là. Les petits bruns mauves, là.
Ouais, oui, en tout cas.
C'est ça.
Après, ils sont pas chers, chers, eux autres.
Non, c'est ça. C'est pas cher, cher. Après ça, t'as les bleus ciel.
Oui.
Après ça, tu tombes les oranges.
C'est pas les jaunes qui sont là, je pense. Les oranges sont plus loin.
Non, les jaunes sont sur la troisième ligne.
OK.
Avant d'arriver au vert.
Oui. Oh my God, OK.
Ouais, ouais.
C'est comme on avance, là. On
est... pas pire, hein?
Oui, quand même pas pire. T'as peut-être joué plus que moi, finalement. numéro 3, étroitement lié à la croissance de l'automobile. Et my God, ça va être facile, ça. Cette route reliait Chicago à Santa Monica dans l'ouest de Los Angeles sur une distance de presque 4000 km.
66?
Ben oui, écoute, j'allais dire la US Route 66,
oui.
La Panaméricaine ou encore la US Route 1. Alors, tu l'as dit, c'est effectivement...
La 1, si je me souviens bien, la 1, c'est sur la côte Atlantique.
C'est ça, à part de...
À part...
Exactement.
Oui, c'est ça, à part d'en bas, par
mais la plus mythique d'entre toutes,
oui.
c'est la US Route 66.
Oui.
Elle traverse 3 fuseaux horaires, 8 États au total. Et pourquoi elle est...
8 États?
8 États,
ouais. Ah oui, hein?
Ouais.
J'ai toujours rêvé de la faire.
Et la raison pour laquelle elle est si mythique, c'est que ça a été la première route transcontinentale goudronnée. En Amérique.
OK.
C'est un peu pour ça qu'elle a contribué par ailleurs à faire sortir le monde de chez eux. Ils ont dit, on va aller faire un tour de
champ.
De machine.
Un tour de machine.
Oui. Numéro 4, ça des fois aux enfants, ça vous tente-tu d'aller faire un tour de machine? Généralement, ils me disent non, tu sais, c'est comme, je sais pas, le bonhomme, ouais, là, tu sais. En quelle année, et on va maintenant s'en venir chez nous au Canada, okay, en quelle année a été entamée la construction de l'autoroute transcanadienne, d'après toi? Est-ce A, 1945, B, 1950 ou C, 1962, d'après toi?
Entamée.
Elle est commencée. On a commencé parce que je t'expliquerai un petit peu plus tard.
Hmm.
45, 50
45.
Ou 60? Non. Un petit peu plus tard, la construction de la transcanadienne a débuté en 1950. Pourquoi? Oui. Ben, c'est l'année qui a suivi l'adoption de la loi sur la route transcanadienne un an plus tôt, en 1949. Donc, il y avait une loi.
Okay, okay.
45, ça aurait été trop, ouais, de bonheur. Donc, en 1950, et elle a été inaugurée en 1962, donc l'autre date que j'ai mentionnée. Mais attention, les travaux n'ont pas été terminés sur l'ensemble du réseau avant plusieurs années
long,
plus tard. Ah oui, les années 71, 70, dans ces coins-là, avant que vraiment on puisse parler d'un... Et depuis, il s'est ajouté certaines sections qui sont venues se greffer dans certaine mesure depuis le temps, c'est évident. Cinquième question.
1950, hein, il faut juste...
1950 qu'on 1950. A commencé. Ouais, okay. Parce qu'on avait fait une loi juste avant, une loi, la loi de la route transcanadienne, okay, qui disait qu'il devait y avoir un réseau pancanadien de routes pour assurer, si on veut, la circulation des marchandises, des biens et tout ça.
Et il y a des routes de la transcanadienne qui n'ont pas été jamais refaites.
Ben, je sais ça, t'as se demandé si depuis le temps, ils ont effectivement...
Bon, oui. Quand tu passes dessus...
On donnera pas de nom,
hein,
de
non, quoi, c'est ça.
Pas, on veut pas pointer du monde non plus. Question numéro 5, la US Route 50. La Route 50.
50.
Elle a un surnom bien particulier, elle.
La 50.
Ouais.
Non, celle-là, je la connais pas.
Lequel de ces surnoms colle à la Route 50? Est-ce A, la route la plus solitaire d'Amérique? Est-ce B, la route la plus meurtrière des États-Unis? Ou est-ce C, la route des abeilles tueuses?
Je dirais, parce que tu as amené ça, je dirais C.
Oui, mais t'es un peu dans le champ. Un peu beaucoup dans le champ. Non, c'est A.
C'est A.
Ouais,
hein?
C'est une route, elle s'étire de la Californie jusqu'au Maryland. C'est beaucoup,
hein?
Là. Oui.
Elle fait d'un bord à l'autre.
Oui, sur presque 4900 kilomètres, la US Route 50 a été désignée A, la route la plus solitaire d'Amérique.
Ah oui, hein?
Parce qu'il y a de nombreuses portions qui sont assez pas fréquentées, que tu passes carrément dans le désert. Il y a certains coins qui sont même carrément désertiques, là, tu sais, pas au sens figuré, mais au sens littéral. Au Nevada, il y a des stretches, là, c'est comme...
Y a rien,
si t'as pas mis de l'essence là...
Mm-hmm.
T'es mal pris quand tu en manques à quelque part dans le milieu, là, tu sais, genre, là, c'est un peu ça. Alors, puis, ça fait, c'est les années 80, quelque chose dans le genre, qu'on l'a désigné comme la route la plus solitaire. Il y a assez pas de monde qui passe là, ça a l'air, là, des fois, là, tu peux tomber en panne, puis tu peux dire, coudonc, je vais crever ici.
Ouais, mais j'ai toujours fait les États-Unis nord-sud, jamais est-ouest. Fait que c'est cette route-là.
Si t'aimes vivre dangereusement, si tu te passes des grands bouts d'autoroute de même avec la moitié de la teinte, puis nous,
c'est ça.
On va se rendre
on va l'essayer.
On va l'essayer. Non, pas vraiment.
Et là, tu vois les faucons arriver.
Ils volent au-dessus, tout ça. Numéro 6, le nom de cette rue torontoise est souvent utilisé afin de désigner la bourse de Toronto. Est-ce A, B Street, B, Front Street ou C, King Street?
Et B.
Front Street?
Non, Bay Street.
Ah, Bay Street, OK.
Oui.
Okay, okay. Bay Street,
Bay,
OK. Bay, ah.
Bay comme dans une baie, là.
C'était non the dock of the Bay Street.
Voilà. Oui, Michael Bolton.
Il faut avoir de la suite dans les... Bay Street, c'est une rue, effectivement, on l'a dit, au centre-ville de Toronto. Et c'est le centre du quartier financier de la ville. Et son nom, effectivement, est souvent utilisé pour désigner la Bourse de Toronto. Même souvent, on va dire dans les nouvelles, par exemple, il y a des décisions qui ont été prises à Bay Street. Complète les paroles de cette chanson des Colocs. Elle est assez célèbre, celle-là. Là. Assez célèbre. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, elle s'appelait A, Sainte-Lucille, B, Saint-Cyrille ou C, Sainte-Catherine.
Saint-Cyrille.
Absolument. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyrille.
Et c'est ça. J'ai toujours adoré cette chanson-là.
C'est bon, hein? Dans le matériel des Colocs, c'est d'ailleurs pas mal une des plus connues. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle que...
Ben, ils en ont tellement fait.
Quand tu nommes, tu dis... Parle-moi d'une chanson des Colocs. Bon, tu sais, la rue principale.
La rue principale, mal sûr. C'est vrai.
Quelle route est principalement reconnue ou généralement reconnue, pas principalement, mais généralement connue, reconnue comme la plus dangereuse, et c'est pas peu dire, la plus dangereuse du monde. Du monde.
La plus dangereuse du monde.
Est-ce l'autoroute 401 au Canada? Est-ce la route des Yungas en Bolivie? Ou est-ce la Dalton Highway, qu'on appelle aussi l'Alaska Route 11, la plus dangereuse au monde?
Moi, je dirais la route en Bolivie.
Oui, monsieur. La route des Yungas. Elle n'est pas très longue. Ça ne fait pas 4000 km. Elle faisait, en fait, 64 km. La vieille route, c'est la route des Yungas en Bolivie qui a été surnommée la route de la mort. Elle est maintenant fréquentée uniquement que par des piétons et des vélos depuis l'ouverture d'un nouveau tronçon plus sécuritaire il y a quelques années, mais est encore là, là. Je veux dire, tu peux aller l'arpenter, tu peux aller la marcher ou te promener en bicycle dessus. L'affaire, c'est que c'est une toute petite, petite, petite route très, très étroite qui est bâtie à flanc de montagne, à des milliers de pieds au-dessus d'une falaise. Mm-hmm. C'est dans la cordillère des Andes. Il n'y a pas de garde-fous et des morts, là. Il y en a eu un puis un autre. Ça s'appelle... Rate pas ta courbe.
Ben, c'est exactement ce que j'allais dire.
Ben, c'est la mort.
Ben oui, c'est ça. Fais attention au tournant qui s'en vient. Là.
La route des Yungas. Puis il y a des gens maintenant, surtout depuis que t'es plus obligé de faire ça, mettons, en autobus ou encore en camion et tout ça, tu peux la faire en vélo ou à pied. Il y a des gens qui se rendent là maintenant juste pour comme jauger un petit peu, puis la plupart se disent, ben, non, elle n'est pas faite en auto.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mais j'aimerais ça... C'est ça. J'aimerais ça la voir, la route.
Oui, oui.
C'est juste pour voir. Pas la.
Pas me promener avec un 10 roues dessus, mettons, là.
Non.
Puis le pire, c'est que c'est ça qu'ils faisaient à l'époque.
Oui.
C'était un peu ça.
Ah, mais il y a du monde, hein. Ils n'ont pas peur. Hein.
Ben, c'est. La populaire émission Sesame Street, elle existe depuis. Tiens, c'en est une route célèbre, ça? Ou une rue célèbre? Et depuis quand existe-t-elle? 1969, 1971 ou 1975, d'après toi, Sesame Street?
Sesame Street.
Je t'amène la musique.
Il me semble que ça jouait quand j'étais jeune. 71.
C'est un petit peu plus vieux que ça quand même.
C'est 69?
Ouais, 69.
Ah,
ouais.
Oui, hein? Okay.
Sesame Street a été diffusé pour la première fois le 10 novembre 1969. On va donc fêter cet automne, mine de rien, en 2024, les 55 ans.
De Big Bird.
De l'émission de Big Bird, puis de tous les petits personnages. Là, Cookie Monster,
celui-là qui était dans la poubelle, là. Il était vert, lui-là. Là. Oscar.
Oui, voilà, Oscar. Voilà. Et on va compléter avec la dernière, probablement la plus facile. Quel célèbre passage piétonnier les Beatles traversent-ils sur l'un de leurs albums? A. Downing Street. B. Piccadilly. Ou C. Abbey Road?
Ha, ha, ha. Abbey Road!
Absolument. C. Abbey Road, bien sûr. 11e album studio du groupe. Et ça complète...
C'était super intéressant comme quiz.
Un quiz qui
j'en ai appris beaucoup.
Ben, j'espère. Et les gens à la maison, j'espère...
Comme d'habitude.
Que vous en avez appris également. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine?
Oui, on va se retrouver la semaine prochaine. Puis là-dessus, ben, on va vous souhaiter de passer une excellente semaine.
Salut!